Baruch Hashem, nous sommes arrivés à l'étape de Karpas. Et même si cette étape n'est pas celle qui a fait parler le plus les commentateurs, nous allons quand même nous y arrêter un moment. On sait que l'étape du Karpas, donc après Kadesh et Urchatz, après avoir fait le Kiddush et s'être lavé les mains sans bracha, on va donc tremper un morceau de céleri, généralement, dans de l'eau salée ou dans du vinaigre. Et puis, on va faire la bracha de Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam, Borei Peri Adama, en ayant l'intention, comme disent les Sfarim, Liftor Gam et Hamaror Bevirchato, d'acquitter également le Maror, que l'on mangera plus tard dans le Seder, par sa bracha. Première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les Simanim. En vérité, les étapes du Seder s'appellent Simanim, portent le nom de Simanim, ce qui veut dire des signes. Donc les étapes du Seder, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, de par leur nom, nous enseignent des choses. Il y a un très bel enseignement du Rabbi Yochanan de Rahmetzrivka qui dit en fait qu'au moment de la Haggadah, les choses vont s'organiser comme cela. Kadesh ou Chatz, donc cela on en a déjà parlé, le fait qu'il fallait se sanctifier et se purifier, tout cela par rapport à nos fautes. Karpas, il s'agit en fait pour lui des initiales de Klal Rishon Pe Satum. Ça veut dire la première règle, avoir la bouche fermée, se taire. Il faut commencer par se taire avant de parler. Yachatz Magid, et ce que tu veux dire, dis la moitié de ce que tu veux dire. Yachatz, du Lachon Chetzi, Magid, parler. Donc, encore une fois, l'enseignement que tire le Rabbi Yochanan de Rahmetzrivske est de nous dire Karpas, Yachatz, Magid, tout d'abord, ferme ta bouche, et ensuite, quand tu veux dire quelque chose, dis la moitié. Une règle de morale, mais aussi une règle de prudence et une règle d'intelligence. Pour entrer maintenant dans le sujet plus profondément du Karpas, dans les instructions qu'on donne dans la Haggadah, on dit toujours que l'on doit s'acquitter du Maror avec la bracha qu'on fait sur le Karpas. On a une explication là-dessus du Hekel Yitzhak de Spinka, qui rapportait de manière également allusive, donc on est toujours dans ce inyan de Simanim, qu'il faut avoir l'intention Shenipater venetse mikol atzahar veamrirut. En fait, le mot leipater, qui signifie de s'acquitter, quand on dit s'acquitter d'une mitzvah, s'acquitter d'une bracha, donc ici, en faisant la bracha sur le karpas, on veut s'acquitter, c'est-à-dire qu'on veut se dispenser d'avoir à faire borei peri à Adama sur le maror, donc on inclut déjà le maror dans notre intention. Ce que dit ici le Hekel Yitzhak, c'est qu'il faut avoir l'intention d'être également débarrassé, chez Nipater, mais à Merirut, qu'on soit, entre guillemets, quitte de cette Merirut, de cette amertume, qu'on n'ait pas besoin de la rencontrer. Ça peut être étonnant de voir les choses comme ça, mais on sait qu'il y a plein d'enseignements chassidiques où on voit que même des gmarot, des mishnayot sont lus de cette manière-là pour essayer d'aller chercher des enseignements qui sont cachés au plus profond des textes. On connaît une histoire sur le rabbi Shmelke de Nikolsburg, qui était un des grands rebbés, qui avait une chavruta avec rabbi Zusha d'Anipoli, le frère de rabbi Elimelech. Donc on parle de gens d'une élévation extraordinaire, des monuments de Torah. Et ils ont commencé à étudier Yevamot dans la Mishnah. Première Mishnah d'Yevamot, c'est pas une maséchet facile. Chamisha esre nashim, potrot tsarotéen, vetsarot tsarotéen, atsof haolam. On voit qu'il y a 15 femmes qui dispensent leurs tsarot et les tsarot de leurs tsarot jusqu'à la fin du monde. On va pas rentrer trop dans les détails pour expliquer maintenant la Mishnah de Yevamot. Mais en tout cas, ce sont des halakhot extrêmement complexes en ce qui concerne les problèmes donc, d'inceste en général. Et Rabbi Shmelke a lu la Mishnah, il a commencé à l'expliquer selon le Pshat. Et à ce moment-là, Rabbi Zushé lui a dit qu'il fallait peut-être regarder autre chose. Il y a une autre manière de comprendre la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire, Hamesh Esri? On commence par dire 15 femmes. Pourquoi 15 femmes? C'est quoi ce 15? Et il dit, ce 15, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud et le He. 10 et 5, 15. Et Nashim, il lui dit, on ne parle pas de femme non plus ici. Nashim, c'est le notarikon de Ana Hashem, de grâce, mon Dieu. Et donc, ça veut dire quoi quand on dit Hamisha Esre Nashim? Ça veut dire qu'on dit de grâce à Kadosh Baruch Hu, toi qui portes ce nom de Yud et de He, on te demande de quoi? De la même manière qu'il y a marqué dans la Mishnah, Pturot Tsaroten Vetsarot Tsaroten, on prie à Kadosh Baruch Hu pour nous délivrer, pour nous dispenser de toutes les Tsarot, et mot à mot, toutes les Tsarot des Tsarot. Donc une compréhension profonde de la Mishnah ou de la Gemara, elle est possible. Donc on voit a fortiori qu'on peut continuer à faire ce genre de lecture également sur l'ordre des simanim du Seder qui nous appelle à cette lecture. Dans le même ordre d'idées, on a un enseignement du Rebbe de Herloï qui nous parle du karpas en revenant au type de légumes qu'on va utiliser. Donc on sait que nous on utilise du céleri. Et dans la Gemara, on appelle le légume utilisé pour le karpas apia, aleph, pe, yud, aleph. Et le Rebbe de Herloï dit qu'il s'agit en fait des rachetevot de el poel yeshuot ata, que Akadosh Baruch Hu est celui qui fait des yeshuot. Quel est le remez? Le remez est qu'on attend ce soir du Seder, on attend les yeshuot d'Akadosh Baruch Hu, on entend la venue de Mishiach Tzidkenu, on attend la venue du libérateur, et donc c'est ça l'intention qui est cachée derrière le choix de ce légume. Vechen nikra chazeret, de la même manière, la chazeret dans la Gemara, elle s'appelle comment? Tamcha. Tamcha, ce sont les rachetevot de Tamid Mesaperim Kevod El. On est en permanence en train de clamer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons le maror, nous sommes en train en fait de faire une allusion aux périodes difficiles. Aux périodes difficiles que l'âme Israël a traversées, que ce soit à l'époque de l'Égypte ou tout au cours de son histoire, va anu mekablim akol be'ava. Le âme Israël a toujours accepté, malheureusement, les souffrances qui lui ont été infligées be'ahava, avec amour, vetamid mesaperim kevodo idbarach, et n'ont jamais cessé de clamer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc quelque part, on voit ici, dans cette mitzvah du karpas et dans la mitzvah du maror, donc dans ces deux légumes, ce qui pourrait apparaître comme simplement une coutume culinaire ou comme une mitzvah accessoire, entre guillemets, on voit à quel point on peut donner à l'intérieur de ces mitzvahs, placer dans ces mitzvot, des intentions profondes, et on peut comprendre l'élévation progressive de siman en siman dans le seder, en allant donc de kavana en kavana. Une autre explication plus récente, également en rapport avec la sortie d'Égypte, qui est donnée par le Rav Moshe Yaakov Alevi Kenner, il dit en vérité que de la même manière que halachma ania, ce pain de misère dont on parlera peut-être plus tard, est un rappel de la manière dont les Bnei Israël se nourrissaient en Égypte, alors il dit également que la consommation des légumes le soir de Pessah est du même ordre, puisqu'on voit bien qu'on compare l'Égypte qui est Gan Hayarak, que l'Égypte était considérée comme un jardin potager, un pays où il y avait un grand nombre de légumes, et il nous dit que lorsque les Bnei Israël devaient servir le pharaon dans les champs, le pharaon ne donnait que du pain et de l'eau, donnait vraiment le minimum qu'il fallait pour consommer, alors il est possible également qu'il se nourrissait de légumes, puisque c'était la chose qui était la plus répandue en Égypte, et que donc à travers la mitzvah de Karpas, on peut également avoir un souvenir de la servitude de l'Égypte. Il y a un lien très fort entre la mitzvah de Karpas et l'histoire de Yosef. Dans sa Haggadah, le Rav Baruch Rosenblum rapporte le Rabbeinu Manohar, qui est un Rishon qui commente le Rambam, et le Ochot Chaim de Lunel, et encore d'autres, qui disent que Karpas, c'est le notarikon, c'est-à-dire les initiales de Ketonet Passim, de la tunique rayée de Yosef, Shaita Sibat Iridat Avotenu le Mitzrayim, qui, comme on sait, est toute la cause première de la descente d'Ebnei Israël en Égypte. Car à cause de cette tunique, il y a eu la jalousie entre les frères qui est arrivée jusqu'à cette descente en Égypte. Le Ben Ishraï également a écrit que le mot « kar », c'est la fin du mot « mahar », et la fin du mot vente. Et passe, les deux dernières lettres donc du mot carpas, sont les premières lettres du mot passim. Et la raison pour laquelle on trempe le carpas dans l'eau salée ou dans le vinaigre est en fait en souvenir de ce qu'ont fait les frères de Yosef, à savoir qu'ils ont trempé la tunique de leur frère dans le sang avant d'aller la présenter à leur père. Et donc avant même de parler de la souffrance de l'Égypte, on parle ici de la souffrance qu'a connue Yaakov Avinu à cause de cet épisode. Le Rav Baruch Rosenblum a un très très long arichout sur ce sujet, donc je vais passer à un autre commentateur. Dans la cour de Bobov, on a entendu du Rebbe la raison pour laquelle on a l'habitude de tremper le carpas dans l'eau salée. Il faut, pour comprendre tout cela, commencer par un enseignement de Rabbi Shimshon d'Ostropoli, qui, comme chacun sait, est cité énormément à Pessah, à cause des kavanot qu'il a établies. Il y a marqué au sixième chapitre de Shemot, moi aussi j'ai entendu la souffrance, le cri des Bnei Israël, Asher Mitzrayim Avidimotam, que les Égyptiens asservissent, va ezkor et beriti, et je me suis souvenu de mon alliance. On voit dans la Gemara Brachot au Dafhe que Rabbi Yochanan enseigne Yisurin Memarekin Avonotav Shel Adam, que les souffrances permettent d'effacer les fautes de l'homme. Et d'où il apprend ça? Il apprend ça par un calvachomer, par un raisonnement a fortiori, à partir de chen ve'ain, de la dent et de l'œil. Pour nous dire que, de la même manière que la dent et l'œil, s'ils sont touchés, s'ils sont abîmés par le maître, l'esclave, le évêque d'Ivry, va être délivré, alors, a fortiori, que les issurim, que les souffrances qui, entre guillemets, englobent la totalité du corps de l'homme, vont lui permettre d'avoir la libération, donc la libération de ses fautes. Comme d'habitude, nous retrouvons Resh Lakish, le Bar Plukta de Rabbi Yochanan, qui vient et qui dit non, c'est pas ça la raison. Resh Lakish nous dit que dans la Torah, on a décrété une alliance avec le sel, Berit Melar, comme c'est connu, et qu'on a également décrété une alliance avec les Issourin, avec les souffrances. Et il nous dit, ma berita amur bemelar, melar mematéket et abassar, de la même manière que l'alliance qui a été décrétée avec le sel, et par rapport au fait que le sel, motamo, adoucit la viande, la rend consommable, de la même manière, berita amur beissourin, une alliance a été décrétée avec les issourin, avec les souffrances, parce qu'elles permettent d'effacer les fautes de l'homme. Et en fait, il faut essayer de comprendre quelle est la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Lorsque Rabbi Yochanan nous dit que les Issourin effacent les fautes et qu'on l'apprend de Shen Ve'ain, de la dent et de l'œil, alors on comprend ici qu'il ne s'agit que des Issourim, que des souffrances qui viennent Bidei Shamaim, par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Puisque ici, il y a un machal entre le Eved, le serviteur, et son maître. Donc c'est le maître qui a cassé la dent du serviteur ou qui lui a crevé l'œil. Donc de la même manière ici, si c'est Akadosh Baruch Hu, Chas V'Shalom, qui envoie des Issourin, alors on peut comprendre que de la même manière que l'esclave est libéré, les fautes sont effacées. Mais pour Resh Lakish qui apprend cela à partir du sel, il n'y aura pas de différence entre le cas où la personne met le sel lui-même ou que quelqu'un d'autre sale la viande, de toutes les manières. Que je sale ma viande ou que quelqu'un d'autre sale ma viande, la viande est adoucie, entre guillemets. Et il dit donc de la même manière, les Issourin, quelle que soit leur source, ils amènent l'accapara, ils amènent l'effacement des fautes. Et c'est ça, en fait, qui a marqué dans le pasouk. « Vegam ani shamati et na'akat ben Israël, asher mitzraim avidimotam » C'est-à-dire que bien que ce ne soit pas eux qui soient mis dans cette situation, c'est les Égyptiens qui les asservissent, malgré tout, les Issourim ne viennent pas de moi, Kadosh Baruch Hu, ils viennent des Égyptiens, et bien malgré tout, ils sont quand même pardonnés, ils ont quand même, ces Issourim, une vertu de les Marek et Avonot, d'effacer les fautes. Et donc si on va d'après l'avis de Rabbi Yochanan, les fautes, les souffrances qui sont imposées par les Égyptiens ne devraient pas amener cette Géoula aux Juifs. Au contraire, que répond le pasouk ? Va ezkor et beriti, je me suis souvenu de l'alliance. Quelle alliance ? C'est une allusion à la position de Resh Lakish qui a parlé de l'alliance avec le sel. Pour nous dire que finalement, pourquoi on trempe le carpas dans l'eau salée ? Pour rappeler à Kadosh Baruch Hu kivyachol que ses souffrances n'ont pas été imposées par d'autres. Elles ont été imposées par d'autres. Et que malgré tout, selon la Shita de Rabbi Yochanan, à cause du Berit Melach, à cause de l'alliance qui a été faite avec le sel, alors il y a aussi une alliance sur les Issourin, et qu'Akadosh Baruch Hu doit nous donner cette Geoula en raison de ses souffrances. Pour finir, le Maharil, qui est rapporté par le Magen Avraham au Siman Tava In Gimel, Saif Katan Dalet, dit que Karpas, c'est le notaricon de Shishim Parer, donc sa mère qui vaut 60 Parer, pour faire une allusion au fait que 60 myriades, 600 000 juifs, ont été soumis à la Avodat Parer. C'est pour nous dire que la totalité du Ham Israël, à l'exclusion du Shevet Lévi, a été soumis aux travaux forcés. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle on trempe le Karpas, encore une fois, dans l'eau salée. Car on sait que lorsqu'il a fallu traverser la mer Rouge, les anges se sont retournés vers Akadosh Baruch Hu et ont dit « Allelu avde Hashem, v'allelu avde avodazara, v'allelu avde avodazara ». Que aussi bien les Égyptiens sont des idolâtres, aussi bien les Bnei Israël sont des idolâtres, et on ne voit pas pourquoi il faut sauver les uns et tuer les autres. Et donc, en vérité, la réponse à cela est que les Bnei Israël avaient obtenu l'effacement de leur faute de Avodazara de par la dureté de l'exil en Égypte, de par la dureté de l'asservissement. Et bien que cet asservissement soit venu par d'autres, alors à cause de la Xera Shava, donc qu'on a vu tout à l'heure avec le Brit Melach, avec l'alliance du sel, ils ont obtenu le fait d'être pardonnés pour leur faute d'idolâtrie et véritablement de mériter le passage de la mer Rouge et la défaite de l'Égypte.